CFM Cahors, le mag.
Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Quand un jeune lotois décide de créer sa marque de maroquinerie en upcyclant le cuir jeté, eh bien ça donne Hume Paris. Il sera notre invité dans la première partie de ce magazine. Il y a une semaine, l'UDAF du Lot organisait le forum de la laïcité. Nous avons fait une émission spéciale avec plein d'intervenants. Je vous proposerai en deuxième partie de retrouver l'interview que nous avions eue avec Daniel Verba, sociologue et maître de conférences à l'université de Paris Sorbonne, pour parler de la laïcité. En attendant, voyons voir ce qu'il en est du côté de la maroquinerie. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. On se dirige du côté de Paris, mais rassurez-vous, il y a un lien avec le Lot, puisque Hugo, il est justement du Lot et de Martel. Et alors, il a eu une idée avec un de ses collègues, c'est de pouvoir créer une marque de maroquinerie un petit peu particulière. Ça s'appelle Hume Paris, et nous allons en discuter avec lui, avec Hugo Bétarel, qui est avec nous. Bonjour Hugo.
Bonjour, merci beaucoup.
Co-fondateur et gérant de Hume Paris. Alors, j'ai pas voulu en dire trop, mais c'est quoi le concept de cette maroquinerie qui change un petit peu des autres maroquineries habituelles?
Alors, c'est tout à fait ça. Hume Paris, c'est une marque de maroquinerie engagée, upcyclée et 100% made in France. Pourquoi upcyclée? Parce que tous nos produits sont faits à la main à partir de chutes de cuir. On récupère des chutes de cuir dans une sellerie du sud de la France pour pouvoir concevoir des produits de maroquinerie d'une excellente qualité à partir d'une matière qui a déjà été utilisée, mais qui est du coup recyclée et qui est upcyclée.
Alors, est-ce qu'au niveau de la qualité, le cuir a toujours une aussi belle qualité ou pas?
Elle a une excellente qualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille avec une sellerie. C'est une sellerie du sud de la France qui est à Mirande. Et lors de la conception des selles de cheval, elle utilise des grosses parties de cuir. Et du coup, une grosse partie est mise de côté parce qu'elle est trop petite pour être réutilisée. Et cette partie qui est tout à fait impeccable, on la réutilise pour créer des porte-cartes faits à la main, upcyclés, en France, à côté de Limoges.
Donc les morceaux de cuir sont trop petits pour la sellerie, mais ils sont de taille adéquate pour créer vos objets.
Voilà, on a créé un produit qui rentre parfaitement dans ces chutes de cuir. Donc chaque porte-carte est unique, parce qu'une chute de cuir est égale 1 à 2 maximum porte-cartes.
D'accord. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que la conception d'un produit à base de cuir, ça laisse quelques déchets quand même, et des déchets qui pourraient être utilisés, la preuve en est.
Ça laisse quelques traces, parce qu'en fait, plus de 40% en moyenne de la peau est destinée à être mise de côté ou jetée lors de la conception d'un produit à base de cuir. Pourquoi? Parce qu'en fait, les marques utilisent souvent le centre de la peau et les côtés périphériques qui sont soit trop petites, soit avec quelques défauts, parce que vous le savez, l'animal vit, c'est pas forcément utilisé. Et du coup, nous, l'objectif, c'est d'avoir, et la particularité, c'est qu'on a des petits produits, des porte-cartes, et on peut se permettre de réutiliser des peaux qui sont plus petites que d'autres.
Ça fait quand même 800 000 tonnes de déchets solides pour l'industrie du cuir. Donc c'est là que vous
chaque
vous êtes. Ouais, chaque année. C'est là que vous êtes dit avec Mehdi, donc pourquoi pas?
On s'est dit, il y a une carte à jouer, il y a surtout un engagement et des valeurs à porter. Les valeurs qui sont vraiment se dire, on veut lutter contre la surproduction et le gaspillage industriel, parce que chaque année, et beaucoup de marques malheureusement continuent dans ce processus-là, c'est qu'on crée des produits à partir d'une matière nouvelle, alors que souvent on a des alternatives et on peut utiliser ces alternatives-là. Et donc nous, sur la maroquinerie upcyclée, on réutilise des chutes de cuir pour créer des porte-cartes, certes avec un produit qui a déjà utilisé avant, mais la qualité reste excellente parce que tout ça est fait à la main, avec un savoir-faire français artisanal, et on essaie de mettre notre cœur dedans pour avoir vraiment un mouvement et rentrer dans un mouvement qui soit très précis et intéressant.
Mais qui le fabrique là actuellement?
Alors, on travaille avec une maroquinière qui fait ça dans son tout petit atelier, à la main, Fanny, notre maroquinière, à côté d'Ambazac, donc à côté de Limoges. On l'a contactée parce que c'est quelqu'un qui fait ça avec le cœur, qui fait ça tout à la main, qui est en reconversion, entre guillemets, qui a changé de métier, qui a créé depuis 5 ans cet atelier chez elle. Et donc, chaque produit est fait un par un, à la main, par elle, de A à Z. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est transmettre ce savoir-faire français, mais aussi cette envie de promouvoir l'artisanat français.
Donc, ce produit de maroquinerie sont déjà à la vente, alors, depuis un petit moment ?
Alors, on est disponible depuis 2 semaines maintenant sur une plateforme de crowdfunding. Donc, c'est une plateforme de pré-vente, Ulule, ça s'appelle, où les gens peuvent précommander les produits en ligne sur notre site Ulule, sur notre boutique Ulule, pour qu'ensuite, ça nous permette, à la fin de la campagne, qui est dans 2 semaines, donc dans 2 semaines, les gens pourront commander sur le site internet, mais pour le moment, ils peuvent commander sur Ulule. À la fin de ces 2 semaines-là, les gens vont pouvoir, on va pouvoir lancer la production pour qu'ensuite les gens récupèrent leur porte-carte.
Alors, Hugo Bétarel, par contre, une question qui est logique, forcément. Vous avez, vous ou Mehdi, une formation dans la maroquinerie ?
Alors, nous, on est passionnés de maroquinerie. Pourquoi ? Parce que mon père, lui, sa passion, un peu, sa passion du samedi et du dimanche, si je peux me dire, c'est qu'il fait beaucoup de produits à base de maroquinerie. Et je l'ai beaucoup regardé faire. Et je voyais que lorsqu'il découpait ses produits pour lui, il y avait des petites chutes qui étaient mises de côté. Je me suis dit, pourquoi on ne peut pas réutiliser ces produits-là? Et avec Mehdi, on s'est mis sur le sujet. Et du coup, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a rencontré beaucoup d'ateliers de maroquinerie. On s'est formé. On a fait les premiers prototypes nous-mêmes avec Fanny pour qu'ensuite, sur un modèle plus industriel, que Fanny puisse prendre la main pour faire toutes les productions. Mais au début, voilà, tous les prototypes, on les a fait avec elle à la main, avec Mehdi.
Donc, le dessin, le design, la forme, c'est de la création pure.
Tout à fait. On a créé, en fait, on a pris, on a beaucoup interrogé les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Un porte-carte fin, pratique, qui peut contenir toutes les cartes type bancaire et type carte d'identité, ancienne carte d'identité. Et ensuite, une pochette zippée qui peut se fermer pour contenir toutes les pièces et les billets sans qu'elles tombent. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un porte-carte très fin, d'avoir l'essentiel dans sa poche. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout designé avec Mehdi. On a fait des recherches, on a fait des recherches sur produits, on a mis beaucoup de temps à trouver le bon produit, les bons partenaires, les bons fournisseurs pour créer un produit engagé avec des valeurs.
Alors, quand on crée une entreprise comme celle-là, évidemment, on ne la fait pas n'importe comment. J'imagine qu'on étudie un petit peu aussi le marché. Mais quand on fait aussi ce genre de produit, est-ce qu'on se contente finalement de le faire en ligne ou est-ce qu'on a d'autres objectifs ?
Alors, nous, notre premier objectif, c'est d'abord de réussir notre campagne de crowdfunding et on a eu beaucoup de chance et beaucoup de soutien car on est déjà à 140% de la campagne en 2 semaines. Donc sur une campagne qui dure 1 mois, sur Ulule, l'objectif c'est tout ou rien. Donc si on atteint les 100%, le projet est financé et la production commence. Donc là, on a dépassé ce seuil de 100%. Donc la production va avoir lieu dans tous les cas. Donc ça, on est très content là-dessus et on remercie tous nos soutiens pour ça. Mais on veut aller plus loin. Parce qu'à partir de 200%, on va créer un événement de lancement pour remettre, si possible, à chacun son porte-carte. Mais l'objectif, et vraiment l'objectif sur le long terme et sur le court terme, c'est de développer notre gamme de produits en créant d'autres produits à base de chute de cuir dans le futur.
Mais comment on fait pour être distribué face à des, premièrement, des grandes marques, et puis deuxièmement, à tout ce qui vient un peu de Chine aussi ?
Bien sûr. Donc nous, on travaille beaucoup notamment sur notre engagement premier qui est promouvoir le Made in France et promouvoir la fabrication française. Donc pour le moment, on va être disponible sur le site internet, sur le site Ulule. Ensuite, on va avoir notre propre site internet, mais on va beaucoup travailler avec des partenaires qui mettent en avant des marques qui promouvoient et qui travaillent dans le Made in France. Donc c'est pour ça que certes, face aux très grands de l'industrie du luxe, de l'industrie de la maroquinerie, pour le moment, on va être petit parce qu'on commence, mais on a beaucoup d'ambition et nos valeurs et les valeurs et le message qu'on porte va avoir un impact, on l'espère, pour pouvoir grossir, développer de nouveaux produits et rayonner, on l'espère.
Alors justement, le Made in France, vous avez fait le salon dernièrement, c'était du 11 au 14 novembre. Le salon, pour ceux qui ne le connaissent pas, où tout ce qui est présenté, ce sont des innovations et des produits qui sont 100% français. Quel est l'accueil que vous avez reçu là-bas ?
C'était génial. On a vraiment rencontré beaucoup de personnes, des clients, des gens qui sont venus juste poser des questions, comprendre comment ça marche, qu'est-ce que c'est que l'upcycling. Donc on a vraiment rencontré beaucoup de personnes, c'était vraiment génial. On a pu vraiment faire tester les produits déjà. Les gens ont acheté sur le salon aussi des produits parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont ressenti. Et vraiment la particularité de nos produits, c'est que c'est quelque chose qui est réel. On voit la chute de cuir, on la sent, ça sent bon le cuir, et on a envie de le toucher, c'est très doux, c'est quelque chose qui va se patiner dans le temps, parce que le cuir est fait d'un tannage végétal, donc ça va se patiner dans le temps. Et donc, on a eu beaucoup de retours, les gens étaient très intéressés, et ça nous a vraiment boosté pour continuer cette campagne-là, atteindre l'objectif de campagne et surtout le dépasser, et pour la suite.
Il faut compter combien pour un porte-carte ?
Alors, on est sur un tarif actuellement sur Ulule de 69 € pour le petit et de 79 € pour le grand. Et bien sûr, si on achète en quantité pour l'offrir à ses amis, on a des tarifs qui sont réduits encore plus. Donc voilà, on est sur un premier tarif. Certes, on est sur du Made in France, c'est un prix qui est certain, mais on est sur du Made in France de A à Z, sur une fabrication française avec des produits de très grande qualité et qui durent dans le temps. Ça, c'est le plus important.
Ouais, et comme on est à Noël, c'est pour ça que je dis ça. Là, vous pouvez faire vraiment et un très beau cadeau parce que normalement, c'est fait pour durer assez longtemps un produit de cette qualité.
Tout à fait. C'est un produit qui va durer dans le temps et on espère un produit qui va se transmettre de génération en génération.
Ah oui.
Ça, c'est notre objectif.
D'accord. Donc voilà, une très très belle idée cadeau que vous pouvez offrir et qui tient. Et en plus, ça vous coûtera moins cher qu'un gros produit de luxe.
Tout à fait.
Et ça sera fait à 100% français. Et en plus, vous allez soutenir une entreprise française qui a été fondée par un Lotois. On a jusque quand pour participer sur Ulule ?
Alors, il reste exactement 15 jours. 15 jours pour participer sur Ulule. Après, ce sera disponible sur le site internet. Mais vraiment, l'objectif, c'est d'exposer les compteurs sur Ulule. Et ça va être grâce à vous.
Eh bien, voilà, le message est passé. Rendez-vous donc sur fr.ulule.com/humeparis. H-U-M-E. Et Paris comme la ville. Hein. Hume, pour expliquer, c'est parce que H-U comme Hugo et M-E comme Mehdi, hein, tout simplement.
Tout à fait. On parle avec notre cœur de nos engagements et du coup, c'est ça.
Là, au moins, vous êtes engagé même avec votre nom dessus. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas décevoir les acheteurs.
Il n'y a pas de souci là-dessus. On va tout faire pour.
Merci beaucoup, Hugo Bettarel. Et on a encore 15 jours pour participer à cette opération de crowdfunding. Et j'aurais au moins appris un mot, le upcycling, que je ne connaissais pas du tout, qui est donc le recyclage. Comment on le définit, upcycling, plus précisément ?
Alors, l'upcycling, par rapport au recyclage, c'est que le recyclage, on a des matières qui sont transformées pour créer un nouveau produit, par exemple des bouteilles plastiques qu'on met en granulé pour créer notamment des t-shirts, par exemple. L'upcycling, la différence, c'est qu'on a un produit qui est déjà là, qu'on peut réutiliser directement sans transformation et créer un produit d'une excellente qualité. Et c'est ce qu'on fait avec Hume Paris.
Et voilà, encore un mot. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on utilise un mot anglais pour du Made in France. Mais bon, voilà.
Tout
c'est...
à fait.
C'est la vie. Allez, fr.ulule.com/humeparis pour acheter un beau cadeau de Noël et soutenir une entreprise qui voit le jour depuis début 2021. Merci Hugo Bettarel.
Merci beaucoup.
Mardi dernier, nous étions en émission spéciale depuis l'université de Cahors pour une émission spéciale sur la laïcité, l'UDAF du Lot avec la préfecture, le gouvernement, avec la CAF, avec la Ligue de l'enseignement, avec pas mal de partenaires, avait décidé d'organiser ce forum de la laïcité. L'occasion de rencontrer un sociologue, Daniel Verba, maître de conférences à l'Université de la Sorbonne à Paris, pour parler de la laïcité parmi d'autres invités, bien évidemment. Alors évidemment, on ne va pas refaire toute l'émission, mais je vous invite à retrouver cet entretien que nous avons eu durant cette émission spéciale avec Daniel Verba, où l'on parle vraiment de la laïcité et ce que c'est que la laïcité.
Alors il y a des controverses aujourd'hui autour de ce qu'est la laïcité. Pour moi, la laïcité, c'est un principe juridique et politique, qui structure les relations entre l'État et les religions.
D'accord.
Ce principe, il est relativement simple. Il est décrit par la loi de séparation de 1905 par principalement deux articles qui sont très faciles à lire, que tout le monde peut consulter sur Internet, et qui, en fait, au départ, étaient principalement... discuté, débattu par les députés de l'époque pour régler le problème du financement des cultes. C'était ça, en fait, l'objet principal de la discussion des députés en 1905, qui devait payer l'entretien à la fois des bâtiments, mais aussi l'entretien des prêtres, des monastères, etc. etc. C'était ça, l'objectif principal de la loi de 1905, qui a ensuite devenu un véritable débat idéologique entre ceux qui souhaitaient neutraliser l'espace public et retirer tout signe religieux de la vie sociale, collective, et ceux qui, au contraire, considéraient la laïcité comme un principe de liberté, trois libertés importantes, en fait, hein, que garantit la laïcité, la liberté de conscience, hein, de celle de croire ou de ne pas croire, la liberté d'expression religieuse, car en effet, la laïcité garantit la liberté d'expression religieuse, même la liberté d'expression religieuse dans l'espace public. On l'oublie malheureusement un peu trop souvent. Et troisièmement, la liberté des cultes, c'est-à-dire l'égalité entre tous les cultes, le fait que, eh bien, que l'on soit catholique, chrétien, enfin, protestant, juif, musulman, bouddhiste, on a le droit, dans la République française, de trouver des lieux de culte et d'exprimer en fait son appartenance religieuse. Je comprends aussi dans ces appartenances le fait d'être athée, agnostique, etc., etc.
Et maintenant, on se demande si il faut effectivement parler de religion dans un établissement scolaire ou un établissement public. Est-ce qu'il faut mettre être pas masqué, couvert? Est-ce qu'il faut porter le crucifix sur soi? Le sujet est quand même diversifié. J'ai même l'impression qu'on s'égare par rapport au début de la laïcité.
Alors, la laïcité est devenue aujourd'hui un objet de débat idéologique entre, au fond, ceux qui souhaitent toujours, comme Émile Combes en 1905, neutraliser l'espace public, c'est-à-dire interdire toute expression religieuse, et ceux qui défendent, en fait, le texte de loi qui, finalement, a été voté, porté par Aristide Briand, et qui, lui, est beaucoup plus libéral, qui, finalement, laisse beaucoup de liberté à l'expression religieuse. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que, au fond, une fraction à la fois du monde politique, mais aussi des citoyens, hein, de la société française, souhaite faire de la laïcité une sorte de bouclier contre les religions, et plus spécifiquement contre une religion, qui est la religion musulmane.
Hein. Ça, c'est nouveau, par contre. Hein,
alors voilà, ça, c'est depuis la fin des années 80, depuis l'émergence, disons, d'un islam plus visible dans l'espace public. La laïcité a été brandie, au fond, comme une sorte d'arme visant à empêcher cette expression religieuse-là. Hein. Elle avait en premier lieu empêché l'expression religieuse des catholiques. Elle s'est saisie, au fond, de cette opportunité pour combattre un islam trop visible aux yeux de certains dans l'espace public. Et donc, on a aujourd'hui une véritable bataille entre les tenants d'une laïcité relativement libérale, qui, au fond, est assez tolérante, et même très tolérante avec l'expression religieuse en général, hein, pas seulement celle des musulmans ou des catholiques, mais dans la totalité des appartenances religieuses, et ceux qui veulent, encore une fois, neutraliser cet espace public, empêcher, au fond, toute expression du religieux, et... disons, instaurer un système véritablement neutre religieusement.
Alors, en fait, en même temps, Daniel Verba, est-ce que c'est pas de la faute aux religions aussi? Est-ce que les religions acceptent la laïcité? C'est peut-être ça aussi le débat, non? Ou c'est celui qu'on veut lancer, peut-être?
La première qui a été concernée par la laïcité, c'est la religion catholique romaine, hein, qui était le principal sujet de débat, en fait, en 1905. Hein, il n'y avait quasiment pas d'autres religions en France. Hein, il y avait une toute petite communauté juive, et puis une communauté protestante, mais chrétienne, donc finalement quand même relativement proche de la grande majorité catholique dominante. Donc ça a d'abord été la religion catholique qui a été la principale, on va dire, concernée par la laïcité, puisqu'elle a perdu une grande partie de ses prérogatives éducatives, sociales, culturelles. Hein. Elle a perdu beaucoup de pouvoir, en fait, dans cette affaire. À partir des années 80, ça n'est plus la religion catholique qui fait l'objet, au fond, de discussions. Plutôt, ce ne sont plus les catholiques qui remettent en cause la laïcité. Mais la laïcité revient sur le devant de la scène parce qu'on a l'émergence dans l'espace public d'une nouvelle religion, qui est quand même aujourd'hui la deuxième religion en France. C'est quand même une nouveauté, ça. L'islam n'existait quasiment pas il y a un siècle. Hein. Et par conséquent, cette nouveauté va, au fond, réveiller les ardeurs laïques. Et quand je dis les ardeurs laïques, je dirais presque les ardeurs laïcares ou voire anticléricales. Hein. Parce qu'au fond, derrière cette défense de la laïcité, on a aussi l'expression d'un anticléricalisme chronique qui existe depuis la Révolution française dans la société qui est la nôtre.
Alors Daniel Verba, dans ce forum sur la laïcité qui est organisé par plusieurs partenaires, hein, il y a l'UDAF avec la CAF du Lot, la préfecture du Lot, celle de la région Occitanie. Pourquoi vous avez accepté d'y participer ?
Alors, il se trouve que je participe depuis plusieurs années à la formation des formateurs laïcité de l'éducation nationale des collectivités territoriales et qu'à cette occasion, Mohamed Touil, qui est l'un des membres de l'UDAF, qui m'avait entendu en fait dans une visioconférence, avait été intéressé par mon propos. Il se trouve que je ne suis pas forcément un sociologue de la laïcité, mais ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les acteurs professionnels s'emparent de cette question pour accompagner les personnes vulnérables. C'est ça, au fond, mon objet d'étude principal. Il y a des grands sociologues de la laïcité comme Jean Bobreau, comme Jean-Paul Willem, comme Philippe Portier, etc., qui sont des très grands sociologues des religions et des faits religieux et de la laïcité. Moi, je me suis vraiment spécialisé dans une sorte de niche. Je m'intéresse vraiment à la façon dont les travailleurs sociaux, dont les professions du care, les professions de personnes vulnérables, tous ceux qui s'occupent des gens en difficulté, qui sont malades, handicapés, etc., comment ceux-ci traitent de cette question de la laïcité, parce qu'au fond, elle traverse toute la société et toutes les activités professionnelles. Quand on travaille dans une maison d'enfants à caractère social, dans un CHRS, dans un service social, quand on travaille dans un hôpital, etc., on est confronté à des personnes qui ont des revendications religieuses. Par exemple, au moment de mourir, beaucoup de gens revendiquent d'avoir quelqu'un pour les accompagner à l'hôpital. En prison, on accompagne aussi des gens du point de vue religieux. Et puis, on a, c'est vrai, parmi les minorités visibles, donc les personnes arrivées en France les plus tardivement, on va dire, beaucoup ont été socialisés dans des pays où la religion a une très forte influence et où le social est imbriqué dans le religieux. Et par conséquent, ces personnes-là sont parfois un peu désarçonnées par la manière dont nous avons séparé les choses. D'un côté, le pouvoir religieux, d'un côté, le pouvoir civil.
Est-ce que, au final, la laïcité, c'est pas une religion ? Parce qu'elle utilise toutes les codes de la religion.
Tout à fait, c'est une très bonne question, c'est une question tout à fait pertinente. Je me promenais tout à l'heure dans les rues de Cahors.
Très jolie ville, vous avez vu. Hein.
Très belle ville. Et que je découvrais pour la première fois, il se trouve que je n'étais jamais venu à Cahors. Et je suis tombé, tout à fait par hasard, sur un arbre de la laïcité, tout près d'un petit square, et qui montre que la laïcité fait l'objet d'un culte, comme des divinités ont pu faire l'objet d'un culte aussi. Donc il y a un vrai culte, comme il y a eu un culte de la raison durant la Révolution française, il y a un culte de la laïcité, il y a ce qu'on appelle les laïcars, qui ont développé une véritable apologie presque religieuse de la laïcité, qui en font une religion alternative. Or, les députés de 1905 n'ont absolument pas voulu de ça. Ils ne voulaient pas recréer une religion. Ils voulaient structurer un principe qui permette la cohabitation de toutes les religions. C'était ça.
Le respect de l'un de l'autre, voilà. Quelles que soient les croyances.
Cohabitation de toutes les croyances ou des non-croyances.
On n'y est plus.
C'est très
là.
Important. Les non-croyants ont aussi une place dans la laïcité. Par conséquent, vous avez tout à fait raison de pointer ce que j'appelle un dévoiement de ce principe de laïcité, où certains d'entre nous veulent en faire une véritable religion, donc quelque chose finalement qu'on ne peut pas remettre en cause, qui doit neutraliser toute expression religieuse ou que ce soit, etc.
Daniel Verba, sociologue et maître de conférences à l'Université de Paris, qui nous parlait de laïcité lors de ce forum qui était organisé mardi dernier par l'UDAF du Lot et avec pas mal d'intervenants qu'on aura l'occasion de réécouter parce que c'est un sujet qui est toujours effectivement de qualité. Ce samedi 18 décembre, à la Bourse du Travail, place Claude Rousseau de Cahors, conférence débat avec Sylvie Lemasson, à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Rosa Luxembourg. En fait, en novembre 1918, pour beaucoup d'Européens, la fin du premier conflit mondial enterre une époque. La disparition des empires centraux et l'hécatombe humaine incite à croire en un changement politique. Mais pour certains, le tournant de 14-18 doit traduire une ambition tout autre, celle d'une rupture radicale. En un mot, le temps de la révolution universelle. Eh bien, Rosa Luxembourg appartient justement à ce cercle d'intellectuels acquis à l'idée d'un retournement du monde. Ses sentiments absolus lui permettent de bousculer les codes dominants, d'un ordre conformiste plus précisément. C'est cette conférence qui en parlera et ce sera ce samedi 18 décembre à 14h30 organisée par l'association Libre Pensée de Dordogne et Libre Pensée du Lot. Le pass sanitaire sera demandé à l'entrée de la salle et le port du masque est obligatoire durant la conférence. Voilà, c'est donc ce samedi à, je ne vous ai pas dit l'heure, 14h30 à la Bourse du Travail. C'est la fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi, à réécouter tout à l'heure à 17h en rediffusion, ainsi qu'à 21h30 et à retrouver aussi en podcast sur cfmradio.fr. Dans un instant, le journal.